pas de succès sans copie, mais sans imitation, ça n'existe pas.
C'est de la merde.
88.3.
Êtes-vous sûr de vouloir l'entendre?
On se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors ?
Alors ?
Alors ?
On se fait un film ?
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, bonsoir chers auditeuristes, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et c'est maintenant l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Et j'ai avec moi une personne, oui, ce soir on est en équipe réduite, mais j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Arnaud.
Bonsoir.
Tu te sens pas trop seul là de ton côté ?
C'est assez inédit pour moi là, je crois.
Oui, effectivement, mais c'est pas nouveau pour moi, c'est déjà arrivé et je suis sûre que l'émission se passera très bien, surtout qu'on a quand même des films à présenter, à chroniquer. Et comme d'habitude, enfin très souvent, je fais une première introduction avec l'actualité aussi au niveau événementiel localement, donc à Orléans. Et je voulais vous parler d'un événement organisé par le Cinéma des Carmes qui est un concours de courts-métrages réservé aux 15-25 ans. Donc si vous avez entre 15 et 25 ans, vous pouvez proposer un film d'un maximum de 5 minutes, fiction, documentaire, clip musical ou expérimental. Vous pouvez donc envoyer votre candidature jusqu'au 27 mai à l'adresse mail lestrampolines.descarmes. J'ai pas la suite. Mais vous trouvez toutes les informations sur le site du Cinéma des Carmes. La projection des films aura lieu le vendredi 19 juin, donc au Cinéma des Carmes, avec une remise des prix. Donc voilà, on vous invite à proposer vos films, bien sûr amateurs, évidemment, si vous avez moins de 25 ans. Voilà pour commencer. Et on va continuer à enchaîner avec les films que nous avons vus.
Oui.
Toi, Arnaud, il me semble que tu as vu The Drama de Christopher Borgli.
Oui, bah, écoute, on va commencer par celui-là. Alors.
Si ça te va.
Oui, oui, ça me va très bien. Alors, 1h46 minutes, déjà ça fait plaisir.
Parce que oui, ça change des films de plus de 2h, 3h.
D'autant que le second, enfin on verra tout à l'heure, mais oui, ces temps-ci, la durée, c'est vraiment...
Oui, moi j'ai eu là dans mes deux films, j'en ai un qui fait 2h, oui.
Ouais, et ça s'étale quand même de plus en plus, les formats de 90 minutes qu'on connaissait de longue date, c'est plus ou moins fini, hein. On fait long ces temps-ci, très long, parfois trop, mais bon, enfin bref, on va voir. Donc là, Drama, film, donc tu m'as dit, enfin tu disais de Christopher Borgli, par lui-même, avec Zendaya, Robert Pattinson.
Oui.
Donc un casting 3 étoiles. Nous raconte, enfin je pense que tout le monde a vu les bandes annonces, le pitch, mais enfin voilà, donc il s'agit d'un...
Il y a Zendaya aussi ?
Oui, pardon, c'est ce que j'ai pas dit...
Ah, je sais plus où j'ai pas entendu, pardon.
Oui, oui, un couple, donc. couple qui est sur le point de se marier, et pendant un essayage, on va dire, de ce qui va être servi au repas de mariage, essayage des vins, entre autres... Avec les témoins, sort la question « Qu'est-ce que t'as fait de pire ?» Racontez-nous ce que vous avez fait de pire, que les autres ne savent pas, etc. Et en ce qui concerne Zendaya, sort quelque chose auquel les autres ne s'attendaient pas et qui compromet sévèrement... le mariage, ou du moins la perception que son futur avait d'elle.
Effectivement, sur la bande-annonce, on s'imagine tout et n'importe quoi, évidemment.
Oui, on peut, effectivement. Heureusement, la bande-annonce n'en dévoile pas beaucoup plus et je tâcherai de garder le secret. Ce qui n'est pas évident d'ailleurs après quand on veut parler du film. Enfin, toujours est-il que il n'y a pas que lui hein, qui est impacté par ce qu'elle a annoncé, enfin ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que la témoin qui d'ailleurs a une révélation qui est pas non plus très clean, hein, mais bon, c'est pas.
Oui, parce qu'elle l'annonce, ils sont à quatre dans ce repas. Et qui est en face du couple des futurs mariés? C'est donc la témoin.
La témoin et son compagnon. En fait, ils sont tous les deux témoins.
C'est les deux témoins voilà. Du coup des futurs mariés.
Ce sont des amis de longue date du couple en question. Et voilà, c'est elle qui lance le jeu. Enfin maintenant, je pense que vous saurez qu'il vaut mieux éviter ce genre de action vérité ou choses de ce genre, surtout avant un mariage. Donc, alors. Comment vous expliquer on passe finalement d'une situation au début qui est une romance, hein, une rom-com, comédie romantique pour traduire, tout à fait standard, pour effectivement la faire éclater avec ce petit jeu de vilain qui va tout remettre en cause, etc. Le film a noté qu'il est fait par un, je vais pas voir c'est les Suédois ou enfin Norvégiens, je sais plus précisément, mais enfin c'est quelqu'un qui vient des pays nordiques.
Le réalisateur, donc Christopher Borgli,
qui n'est pas américain a priori, donc du coup il a un recul par rapport à la société américaine qui se prive pas.
Il est norvégien.
Norvégien, voilà, qui se prive pas d'exploiter pour mettre en lumière certains défauts de la société américaine. Il y a un but aussi derrière tout ça. Enfin, il y a un propos. C'est pas juste histoire de faire rire, même si par moment on est quand même à se marrer sur des choses un peu grinçantes, enfin plutôt grinçantes. La mise en scène, pour le coup, elle est plutôt efficace. Quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais...
Non, mais si, déjà, il y a une mise en scène.
Il y a une mise en scène, c'est pas plan-plan. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se joue là-dedans, dans les cadrages, les décadrages aussi, où les personnages...
C'est quand même réfléchi, c'est pas du basique scolaire.
Hein. Oui, c'est pas du basique scolaire. Il a une façon, justement, de décadrer les personnages quand ils sont ensemble à l'image. À en couper un ou pour donner un certain déséquilibre, malaise, etc., qui va avec le récit, hein, et qui a un sens. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'était plutôt une bonne surprise. La lumière aussi, qui était plutôt bien travaillée, c'est pas parce qu'on fait une comédie qu'il faut saloper le boulot. À part ça, le film fait penser, bien sûr, à d'autres auteurs un peu des mêmes contrées. On pense assez fatalement à Feston.
Ah ouais.
C'est pas tout à fait. Non, attends, c'est pas.
Dans les révélations, c'est pas.
Non, c'est pas aussi trash. C'est pas aussi trash, quoique. Presque.
Très mais, bien. N'en dis pas plus. Déjà, c'est encore mystérieux. Merci.
Ne pensez pas que ça va dans cette direction-là. Si vous avez vu Feston, je vous le donne à titre d'exemple. On est évidemment à un mariage, donc voilà, il y a des choses il y a des échos qui peuvent se faire. Dans les critiques, beaucoup reviennent sur. Alors, j'ai pas son prénom, Oslund. Je crois que c'est Robert. Il me semble.
Oui, pas le Triomphe des Bermudes, mais...
Non, il y avait le The Square, et elles sont plus récentes, où tout le monde vomit sur La Croisière s'amuse, enfin, bref. Je suis pas tout à...
Oui, c'est Ruben.
Oui, pardon, Ruben.
Ruben Östlund, oui.
Je pense qu'il faut pas non plus trop exagérer, c'est pas le même... C'est pas la même cuisine.
Mais il est comparé parce que c'est en termes de critique de société.
Oui, de choses qui pourraient être, enfin, qui sont dérangeantes de toute façon, etc. Donc il est effectivement comparé à ce titre-là. Moi, je trouve que là, Christopher Borgli, dont je connais pas la filmographie, j'ai pas vu ses films précédents. Je trouve qu'il est un peu plus digeste. Et c'est pas un défaut, enfin, dans le sens où moi, Östlund, je le trouve trop caricatural dans les thématiques qu'il aborde, et parfois à contresens. C'est-à-dire que, mettons, The Square, bon, il se focalisait, enfin, c'était une critique d'une certaine élite bobo, oui, artistico, etc. Sauf qu'en fait, son film respirait lui-même ce genre de choses, enfin, les choses qu'il critiquait. Donc, bon, après, les autres films de sa filmographie, j'ai eu l'impression que c'était un peu pareil. Il y avait un hiatus quelque part, quelque chose qui n'était pas...
Il y a Snow Therapy chez Östlund qui fonctionne plutôt bien. Ouais. Mais après, je te rejoins, effectivement, ces derniers films sont un peu problématiques sur comment ils dénoncent. Je te rejoins, ouais. Alors qu'il a reçu une Palme d'Or, mais...
Oui, peut-être pas sur le meilleur de ses films. Enfin, je sais pas, j'ai un problème effectivement avec ce réalisateur. Donc là, c'est comparé à ce réalisateur-là. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu plus fin. Mais bon, enfin, je pense que vous pouvez vous faire votre avis.
Il est comparé parce que peut-être Östlund est suédois, donc.
Oui, sans doute que ça. c'est un peu facile.
Les réels ouais, du Nord.
C'est un peu facile, mais non, je conseille d'y aller, d'autant que les performances de Pattinson et de Zendaya sont tout à fait à la hauteur. Lui. Il passe par tous les états, il est relativement pathétique, enfin, il a du recul sur lui en tant qu'acteur, enfin bon, puis Zendaya aussi, enfin, c'est-à-dire qu'on a vraiment des acteurs qui sont solides là-dedans. Voilà.
Mmh. Ok, super. Donc The Drama de Christopher Borgli, qui est donc encore à l'affiche. Eh bien, merci Arnaud.
De rien.
Moi, je vais vous parler d'un film que j'ai vu là il n'y a pas très longtemps. C'est un film nigérien. C'est mon premier film nigérien. Je suis ravie. C'est Un jour avec mon père, mais je préfère le titre original qui est My Father's Shadow de Akinola Davis Jr., qui a écrit donc ce premier, c'est un premier long métrage qu'il a écrit avec son frère Whale. Et donc il s'agit d'une fiction fantasmée inspirée de leur propre vie, qui dresse le portrait de leur père. Et c'est un très très beau portrait, un portrait très sensible et intimiste de ce père qui est dans le film, qui est absent pour le travail, et un activiste, un militant activiste. Et ça se passe en 1993, le jour des élections présidentielles au Niger, qui nous montre en fait que le pays est en crise, avec un peuple en colère face à l'autoritarisme. Et donc c'est un moment assez particulier pour le pays, donc c'est un peu la petite histoire dans la grande histoire, mais pour nous montrer un très beau portrait. Tout est filmé à hauteur d'enfant. On suit donc deux enfants, deux frères qui sont jeunes.
Ils ont quel âge, a priori, enfin, environ?
Autour de 8 ans.
Oui, d'accord, oui, effectivement.
Ils sont encore petits, peut-être 8-10 ans. J'ai un peu ça au pif. Et d'ailleurs, cette façon de filmer, et même l'histoire, ça m'a rappelé l'autre film qui est sorti il n'y a pas longtemps, de Laszlo Nemes, Orphelin, qu'on a chroniqué la dernière fois. Et qui, pareil, c'est un film à hauteur d'enfant qui critique l'autoritarisme. Et donc voilà, j'ai fait, il y a ce lien là, et c'est intéressant du coup de montrer l'histoire du Niger à travers ce film, et toutes les spécificités. Mais c'est un film qui est, j'ai dit au départ, fantasmé, car c'est un peu C'est un peu poétique, c'est, y a des instants, un peu les cadrages sont un peu de côté. Enfin, on voit des choses qui sont là, mais peut-être pas là. Donc on sent voilà, qu'il y a, enfin, tout ça, c'est un intérêt aussi au film de parler de ce père qui a beaucoup marqué enfin, le réalisateur, évidemment, mais... ce père qui est décédé, donc voilà, il y a tout tout un poids qu'ont donc ce réalisateur et son frère. Et aussi quelque chose de vraiment intéressant dans ce film, donc ils ont travaillé l'image, ils ont tourné en pellicule, donc en 35, qui rend vraiment, qui donne donc ce grain particulier d'une époque passée. Je trouve que c'est un très bon choix d'avoir utilisé la pellicule. C'est très très beau, la lumière est très bien travaillée. C'est un très beau film et il y a de très belles scènes. Entre les acteurs, entre ce père et ces deux garçons de transmission qui sont très émouvantes, qui montrent un père très aimant qui prend le temps avec ses garçons, donc malgré toute son absence, mais qui prend le temps de se confier, de leur parler comme des adultes. Il y a quelques scènes comme ça qui sont vraiment très belles, que ce soit à l'image ou dans les dialogues, c'est très bien écrit. Et ouais, je suis pas déçue du tout. C'est un film aussi qui prend son temps, voilà, il faut s'installer et voilà, partir au Niger dans ce film qui est magnifique. Donc My Father's Shadow, dont le titre français est Un jour avec mon père, de Akinola Davis Jr. Voilà pour un des films que j'ai vu. Et on peut faire déjà une première pause musicale, si tu veux bien.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, donc, je vais vous faire écouter un morceau de la bande originale de ce film nigérien, qui est donc une bande originale qui a été composée par un duo anglais, Duval Timothy et CJ Mira. Et on va écouter le morceau Aoa Opa de Leti Odo, avec la chanteuse Okikio Luva Adewale. Et donc, on écoute ça maintenant, dès que le morceau est prêt, et on se retrouve donc juste après, toujours sur Radio Campus Orléans.
Cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Ah, quel dommage.
Avec nous, venez faire le...
Cristal, le baile.
vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Si vous venez nous rejoindre, on vient d'écouter un morceau de la bande originale du film Un jour avec mon père, donc le morceau qui est Aopade Leti Odo, qu'on retrouve donc dans ce film nigérien à voir actuellement à l'affiche, qui est actuellement à l'affiche au cinéma. Voilà, donc c'est l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Et donc on passe à la troisième chronique. Dis-moi Arnaud, toi tu as vu donc le projet
Dernière Chance. qui alors commence un peu à dater, il est sorti le 18 mars. Et quand je parlais de durée, celui-ci fait 2h37.
Waouh, ok.
Donc bon... c'est un film de science-fiction où on retrouve deux Phil Lord, Christopher Miller par Drew Goddard avec Ryan Gosling, Sandra Hüller qu'on avait vu dans l'anatomie d'une chute et là qui nous dévoile une facette de son jeu d'actrice qu'on ne connaissait pas.
Elle est incroyable.
Elle est assez incroyable, effectivement. Enfin, en tout cas, elle confirme qu'elle sait faire beaucoup de choses. Ryan Gosling, on pourrait dire pareil. C'est-à-dire que dans le registre comique, on le connaissait un peu, mais peut-être pas tant que ça. Bon, en quelques mots, de quoi ça parle ? Nous sommes sur Terre au début, enfin presque au début, le constat du moment, c'est qu'il y a une espèce de contamination cosmique qui s'attaque aux étoiles des différents systèmes qui sont dotés d'étoiles, donc la nôtre, sauf une qui semble ne pas être impacté par cette contamination, et donc est décidé d'envoyer une petite équipe d'astronautes et un scientifique pour s'approcher de l'étoile qui, elle, arrive à, comment dire, à survivre malgré l'attaque d'une substance mystérieuse. Et donc, un voyage plutôt sans retour, a priori.
Parce que donc, il essaye de comprendre l'extinction du Soleil. Hein. Cette contamination a quand même une conséquence assez...
Oui, quand je dis qu'il s'attaque aux étoiles, c'est... Voilà, c'est
oui, dont le Soleil.
Dont le Soleil, enfin tout ce qui brille, on pourrait dire.
Et il se dirige vers le Soleil, du coup ?
Vers un autre Soleil, d'un autre système, d'où le voyage... Enfin déjà, pour nous, ce serait énorme, le nôtre, mais là, c'est encore plus loin, donc...
Attends, on arrive à aller jusqu'à la Lune, donc...
Et un peu plus loin, et au-delà. Là pour le coup le voyage récent là est plutôt ridicule par rapport à ce qui est proposé, sachant que le personnage au départ se réveille dans le vaisseau humain sans souvenir de ce qu'il fait là, de sa mission, etc.
D'accord.
En fait, la construction du film se base sur le temps présent, c'est-à-dire le vaisseau spatial, etc. Et des flashbacks où sa mémoire lui revient petit à petit, où on comprend les enjeux, ce qu'il fait là, etc.
C'est tout le film se passe dans le vaisseau ?
La plupart du temps, oui. Ouais. Mmh. Et hors du vaisseau, mais enfin bon, dans l'espace. Okay. Puis il y a quelques sorties extra-véhiculaires. J'hésite un petit peu, mais enfin, je vais pas tellement spoiler. Dans son voyage, il rencontre une autre entité qui a pour ainsi dire la même, enfin, qui a la même mission que lui, et donc ils vont collaborer pour accomplir leurs missions respectives.
Mais cette autre personne vient d'une autre planète.
Oui, d'une autre civilisation extraterrestre, etc., etc. Bon, c'est un peu le feel good movie de l'époque, enfin de maintenant, sachant que ça a un peu les écueils aussi de ce genre, à savoir que il y a des facilités qui scénaristiques qui sont un peu un peu dommage. Cependant, le film est une adaptation, j'ai pas le titre du livre, mais je crois que c'est à peu près la même chose. Enfin, je vais dire une bêtise, mais c'est une adaptation d'un livre d'un auteur qui avait déjà fait un roman qui est devenu Seul sur Mars en adaptation filmée par Ridley Scott, je crois. Si ma mémoire est bonne, qui était à l'époque de sa sortie aussi un feel good movie. Le gars en fait est habitué à ce genre, sachant qu'il mélange, c'est de la science-fiction, mais il essaye d'être assez pointu sur un certain nombre de choses, ce qui est assez passionnant. Et ensuite, oui, enfin, il y a vraiment de chez lui. Une envie d'expliquer les choses, de donner un certain apprentissage de la science, etc. De la curiosité.
Vulgariser peut-être.
Oui,
la science,
voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, qui est vraiment assez intéressant de ce point de vue-là. Les 2h30 et quelques dont je parlais, on les sent quand même pas trop. Enfin, ça va, je veux dire, la durée, on les sent pas trop passer. Enfin. Il y a que le fauteuil sur lequel vous êtes assis qui va vous rappeler que ça fait un moment que vous y êtes, mais sinon ça se laisse voir quand même assez bien. Comme je disais, avec quelques facilités ou du moins un côté parfois un peu gnangnant, mais sinon dans l'ensemble, oui, ça c'est le spectacle est là, la science-fiction est là. Avec, c'est un petit écueil, un autre second écueil que je vais évoquer, c'est que le film est ultra référencé. On a des références à beaucoup, beaucoup d'autres films de science-fiction. Le seul truc qu'ils n'ont pas fait, c'est de nous mettre Space Oddity en fond musical. Et ça, pour ça, merci. Voilà.
Très bien. Mais en tout cas, tu t'es pas ennuyé sur
ça ? Non, je me suis pas ennuyé. Voilà, c'est juste que. Il y a par moment, j'ai l'impression que ça s'adresse vraiment aux plus petits qu'aux plus grands. Enfin, c'est vraiment par moment. Ça s'adresse à tout le monde. Mais
D'accord. Oui, dans un scénario assez simple de compréhension.
Oui. Enfin, justement, l'enjeu, ça va être la compréhension entre notre terrien et l'autre entité. C'est un des enjeux majeurs du film. Voilà comment ils vont arriver à communiquer. Et là, de ce point de vue-là, on a des références aussi un petit peu au film de Denis Villeneuve sur la rencontre des extraterrestres et des terriens. Enfin, bon. Je vous le dis, vous allez, enfin, si vous êtes cinéphile, science-fiction, vous allez sûrement reconnaître un certain nombre de choses que vous avez déjà vues. C'est pas forcément, enfin, c'est pas mal utilisé, mais voilà, enfin, je pense que vous pourrez faire un quiz à la fin du film.
Très bien. Eh bien, merci Arnaud. Donc, c'est Projet Dernière Chance de Christopher Miller et Phil Lord qui est encore à l'affiche.
Oui.
Eh bien, moi, j'ai vu un film japonais, Love on Trial, qui est inspiré d'une histoire vraie. Et donc, le film suit un groupe de idols. Je ne sais pas si tu as vu peut-être la bande-annonce, mais c'est dans le principe, en fait, ces jeunes filles n'ont pas le droit d'avoir
oui,
de relations
amoureuses.
Oui,
j'ai
amoureuses.
Vu la bande-annonce, effectivement. C'était assez intriguant.
Oui, effectivement. Effectivement, de savoir d'où ça vient, comment. Et donc, c'est vrai que ça m'intéressait de voir comment c'était abordé. Donc ce groupe de idols, donc c'est un girls band japonais qui aux couleurs très pop et c'est surprenant parce que c'est beaucoup suivi par des fans masculins. Enfin surprenant, pas alors non au final non.
Parce que, pas tout à fait.
Effectivement vu que il y a cette obligation de rester célibataire pour justement que ces fans continuent d'acheter les albums.
Oui, c'est qu'ils s'imaginent que la porte est encore ouverte. Enfin.
Tout à fait, qu'ils peuvent fantasmer sur ces jeunes filles en sachant qu'elles sont vierges de tout.
Et qu'elles pourraient être disponibles, j'imagine.
Oui, c'est ça. Mais tu vois, j'aurais cru, comme ce sont des girls bands, ces groupes, que les filles aussi seraient fans. Mais elles sont fans, le public féminin peut être fan, mais dans le sens où elles aimeraient être à leur place, en fait. Donc, ce sont des jeunes femmes qui... dans ces groupes qui donc signent des contrats qui leur imposent le célibat. Et donc on découvre dans ce film, c'est assez bien fait, où elle ne décide de rien. Mais certainement, les girls band en France, ça doit être aussi, ça devait être pareil, où donc tout est contrôlé par le producteur, que ce soit les morceaux, les tenues, les chorégraphies, tout est cadré. Et elles n'ont pas à donner leur avis, elles n'ont pas le choix. Voilà, elles ont signé leur contrat et maintenant elles doivent faire ce qu'on leur dit. Et donc ça montre bien que c'est une industrie patriarcale qui exploite en fait la réputation de pureté. Voilà, c'est ce qui est dit dans le film. La réputation de pureté, ça m'a fait bondir de ces jeunes filles. Et qui est donc un terme qui me fait vomir. Donc c'est à travers ce film que le réalisateur critique ce système. Et du coup, je suis pas déçue par la fin, qui est dans la position de, parce qu'on suit surtout, enfin on suit le groupe, mais surtout l'une, enfin celle qui a du coup. Donc on le voit dans la bande-annonce, qui a mordu à l'hameçon et qui a une relation amoureuse. Et j'aime beaucoup comment ça se conclut. Parce que cette jeune fille, elle va se battre donc contre ce système jusqu'au bout, comme elle le dit dans le film, pour ne pas regretter ses choix. Et je trouve ça très, très courageux. Quand on voit tout ce qu'elle va subir. Par contre, j'ai un petit bémol sur le rythme du film qui est extrêmement lent, mais lent dans les dialogues aussi. C'est que voilà, il faut être très patient. Chaque mot est mesuré, chaque phrase est dite dans un rythme où il faut avoir du temps. Voilà, le film dure 2 heures. Et donc chaque prise de parole, chaque mot sont pesés et ça se ressent. Du coup, ça manque de fluidité. Ça, je trouve que c'est un peu regrettable. Voilà, il y a des moments où j'ai envie que ça s'accélère. Mais sur le fond, je suis assez ravie sur la fin en tout cas. Et voilà ce que j'ai à dire sur ce film Love on Trial de Koji Fukada.
Que le pendant en fait masculin de ces groupes est évoqué
pas du tout. Ah. Alors que effectivement,
il m'avait semblé pourtant percevoir après, dans la bande-annonce, mais j'ai dû me tromper.
Alors,
sans doute, je me suis peut-être fourvoyé en interprétant.
Il n'y a pas de groupe masculin, mais pourtant ça existe. Mais je ne sais pas s'ils signent le même type de contrat.
A priori, il me semble que oui.
C'est possible,
entre autres, par rapport à des reportages que j'ai pu survoler. Concernant la K-pop, il y a des drames aussi de ce côté-là.
Là, on parle de J-pop. Alors après, je ne suis pas une spécialiste, mais il y aurait une sorte de différence sur le style musical.
Oui, sans doute. Oui.
Bon, voilà, je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas développer.
Oui.
Mais c'est vrai que les groupes masculins, oui, peut-être qu'eux aussi, il faut qu'ils gardent leur pureté.
Oui, il me semble aussi qu'ils ont leurs fans féminines, etc., dont les enjeux sont un peu les mêmes, à savoir... Il est trop mignon et puis j'espère qu'il a pas de copine parce que sinon
d'avoir un espoir d'être potentiellement l'élu de
et le côté aussi staccanoviste des répétitions, des chorégraphies, etc. Je crois que c'est à peu près pareil.
Ah oui, certainement.
Mais après, il y a peut-être d'autres arrangements avec d'autres facettes, mais il me semble que dans un cas comme dans l'autre, c'est un peu l'enfer.
Oui, c'est effectivement ce que le film montre. En tout cas, il montre une partie, cet aspect-là, mais il y a certainement aussi d'autres aspects parce que tout est contrôlé, donc elle ne décide de rien du tout. C'est hyper punitif aussi. C'est que chaque faux pas, elle le paye durement et c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc il y a une de ces artistes d'Idols qui a fait ce faux pas et qui s'est retrouvée à devoir à payer des dommages et intérêts aux producteurs.
Ouais, en fait. Ça me parle. Je me semble avoir vu ça dans un reportage, que même au niveau financier, en fait... T'es pas à l'abri.
Non, effectivement, c'est terrible. C'est terrible. Alors que bon, ces producteurs-là, ils retrouvent d'autres jeunes filles parce qu'il y en a beaucoup qui souhaitent monter sur scène. Donc il y a vraiment, enfin, je trouve ça hallucinant que ça aille aussi loin au niveau juridique. Mais voilà, c'est bien triste et c'est ce que veut dénoncer ce film qui est intéressant. Voilà.
Donc d'accord. Ça me rappelle, si on peut prolonger l'expérience, si j'ose dire, le film d'animation Perfect Blue de Satoshi Kon, dont le personnage principal est justement une de ses idoles. Alors, okay. Le film commence à dater, hein, il doit avoir peut-être 20 ans, je ne sais plus précisément, mais donc il s'intéresse à... ce personnage de chanteuse, enfin de girls band, qui espère un peu plus que ça et faire du cinéma. Et on voit assez bien justement dans les groupes de fans les discussions pas très jolies qu'il peut y avoir à ce sujet-là et sur le fait qu'elle lâche le groupe et la trahison et j'en passais des meilleurs. Enfin, il y a un fond qui était déjà bien pas mal renseigné
là-dessus. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça parce que effectivement, même entre elles, il y a cette peur de trahison, comme tu dis, et il y a des échanges un peu lunaires avec l'une d'entre elles, et c'est vraiment flippant. Mais c'est que elles sont manipulées. C'est comme si toute leur vie, voilà, c'est leur rêve en fait à ces jeunes filles. C'est leur rêve de pouvoir monter sur scène et d'être devant un public. Et c'est terrible parce que voilà, ces producteurs abusent de leur pouvoir et c'est triste parce que ces jeunes filles, du jour au lendemain, peuvent être détruites, surtout avec les réseaux sociaux aussi.
Oui, en plus.
Aujourd'hui, c'est terrible. Enfin, et elles sont peut-être pas protégées non plus, suffisamment suivies pour l'aspect psychologique notamment. C'est vraiment intéressant. Mais Perfect Blue, je ne l'ai pas vu. Un film d'animation, ok.
Oui.
Je vois, produit en 1997.
Oui, donc...
Satoshi.
Ça commence vraiment à dater.
Mais c'est tout à fait ça, effectivement. Ça parle aussi de ce
bon, film. Là, on est sur un polar thriller, mais qui est vraiment raccordé à ce milieu de la pop kawaii japonaise.
Yes. Eh bien, très bien. Je note sur ma liste de films à voir... Eh bien, merci beaucoup. Moi, je te propose, parce que là, on a parlé de nos quatre films. Avant de nous quitter, j'aimerais passer un dernier morceau de la bande originale du film nigérien de Akinola Davis Jr. Donc, j'aimerais vous passer un dernier morceau avant de nous quitter. C'est... donc toujours un morceau composé par le duo anglais Duval Timothy et Sid Jimira. On écoute et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus Orléans. Et on vient d'écouter un morceau de la bande originale du film My Father's Shadow du Nigérien Akinola Davis Jr. et donc BO composé par le duo Duval Timothy et ici Jim Mira. Arnaud, merci.
Oui. Merci Céline.
Merci d'avoir été présent pour cette émission. Et donc on se retrouve en live dans 3 semaines. Mmh. Et pour les auditeurs, si vous souhaitez réécouter ou écouter, donc les émissions sont toutes en replay sur le site internet de radiocampusorléans.org. Notre émission, mais aussi toutes les émissions de la radio. Donc n'hésitez pas à regarder, fouiller pour écouter, réécouter. On vous remercie et puis bah,
à
passez
bientôt
une bonne
et
soirée.
Allez au cinéma.
Très bien. Salut. Come on, come on now. Come on, people, take control now.
C'est lui. eso que brilla son sus ojos, esa mirada. ¿Para quién es? No puedo más. Ay, qué locura, esa pasión me va a matar. Cientos de formas revocadas lucen sus prendas. Al bailar sientes placer, algo te mueve, algo te dice, ven acá.
Repente silueta, lúcete conmigo, destapa tus encantos que quiero alucinar. La salsa de tu cuerpo acopla mis sentidos, todo me da vueltas, voy a desmayar. Repente silueta, lúcete conmigo, destapa tus encantos que quiero alucinar. La salsa de tu cuerpo acopla mis sentidos, todo me da vueltas, voy a desmayar.
You know that's right, I'm the one they call scandalous. Your chick Le marchandage, le chantage.